Je sais que
ma femme a exprimé tellement peu de choses qu'elle aurait pu exprimer beaucoup plus. Mais je ne crois pas que j'aurais eu le temps de parler à ce moment-là. Et lorsque, vous savez, lorsqu'on arrive à cet âge qu'est le nôtre aujourd'hui et qu'on regarde en arrière, on s'étonne. Nous n'étions pas conscients de la direction divine, bien des fois. Mais ma prière a toujours été, Seigneur, conduis nos pas. Seigneur, fais ce que tu veux avec moi, quel que soit le chemin. Même si je dois pleurer, même si ça ne me plaît pas, dans un premier temps, je sais que tu veux toujours le meilleur pour les tiens. Alors, Seigneur, peu importe, je veux marcher dans tes traces. Conduis mes pas, quel que soit le chemin. Et je vois maintenant, après tant d'années passées, je vois que, avec étonnement si je puis dire, et pourtant c'est normal, lorsqu'on prie, il y a un exaucement. Je vois que Dieu a conduit ma vie sans que j'en sois toujours conscient. Il y a des gens qui prient, Seigneur, je veux faire ta volonté. Montre-moi ta volonté, le chemin que je dois suivre. Parle-moi, ô Dieu. Ils s'attendent à une voix quelque part, à un rêve particulier, à des circonstances miraculeuses. Mais ce n'est pas comme cela que le Seigneur agit toujours. Oh non, je n'ai jamais entendu sa voix. Non, je n'ai jamais eu une illumination avec une vision extraordinaire d'un ange ou que sais-je. Non, mais il a conduit mes pas. Beaucoup d'entre nous, nous attendons à quelque chose de spécial. Conduis mes pas, Seigneur. J'ai expérimenté que quand on prie une telle prière, le Seigneur répond toujours. Comment répond-il? Tout d'un coup, une porte s'ouvre. Malheureusement, beaucoup de personnes qui demandent la direction de Dieu demandent à ce moment-là, « Est-ce ta volonté que je rentre dans cette porte ?» Tu as prié. Marche par la foi. Avance. Écoutez, c'est simple. C'est trop simple pour nous, super intelligents, éduqués, universitaires et autres. Nous voulons tout raisonner. Mais avec Dieu, ce n'est pas ainsi. La foi. La foi dans la parole de Dieu, l'obéissance et la confiance. La confiance dans la foi. Si nous prions, il répond. J'ai prié, donc c'est une réponse. Bon, j'aurais préféré meilleur, mieux, j'aurais préféré ceci et cela. Ce n'est pas ce que tu préfères, c'est ce qu'il préfère. Et il travaille pour ton bien. J'ai pu voir combien de fois dans ma vie que la direction de Dieu n'est pas une chose mystérieuse, mais c'est simplement une obéissance de chaque jour, une dépendance dans la foi et dans la prière. Voilà. Une obéissance avant tout. C'est un privilège d'être avec vous pour nous aujourd'hui, de vous connaître aussi et de voir toute cette assemblée ici réunie avec nos descendants. Quand on devient un petit peu vieux, on a des descendants. Le Seigneur nous donne le privilège de les voir grandir les uns et les autres. Et d'avoir ma sœur qui est ici, elle a les cheveux blancs comme moi. Du reste, c'est très joli, n'est-ce pas? Elle est grand-maman de ces jeunes gens, ces jeunes hommes qui sont là. C'est formidable lorsqu'on peut voir tout ça. C'est une grâce de Dieu. Voilà. J'aimerais lire avec vous un texte de la parole de Dieu. Nous allons lire un texte, quelques paroles qui se trouvent dans Luc au chapitre 5. À partir de verset 4, il s'agit de Jésus. Il est écrit là. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, vous voyez que j'attends jamais lorsque je lis, je cite un verset biblique à Kinshasa, nous sommes tous les dimanches en direct sur la télévision, et ces messages passent sur plusieurs chaînes, 5 jours par semaine à différentes heures. Et quand vous êtes à la télévision, vous devez remplir votre temps. On n'a pas le temps d'attendre que les gens trouvent le passage. Et puis, du reste, ici, je vois que l'heure est déjà bien avancée, j'ai trop à vous dire. Donc, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Seigneur Jésus, parle-nous par ta parole. Nous avons besoin de cette parole aujourd'hui plus que jamais dans ces temps difficiles de désarroi, ces temps de menaces de guerre. Seigneur, ces temps où l'homme, par sa sagesse, cherche une solution aux problèmes du monde, problèmes économiques, problèmes politiques, problèmes moraux, sociaux. Ô mon Dieu, plus que jamais, nous voulons appuyer notre foi sur cette parole. C'est toi qui parles, Seigneur. Veuille nous parler ce matin, Seigneur, nous ne sommes que des instruments en ta main. Merci, Jésus. Alléluia. Jésus prêchait à la foule. La foule était devant lui. Il prêchait depuis le bateau de Simon-Pierre. Et puis, après avoir prêché, après avoir enseigné, bien sûr, il n'avait pas une cathédrale, il n'avait pas un pupitre, il n'avait pas une chorale, il n'avait pas des musiciens. Tout cela, ce sont des à-côtés. Et j'ai appris en Afrique qu'on n'a pas besoin de ces à-côtés pour prêcher la parole de Dieu. Combien de fois j'ai prêché dans des constitutions étonnante. Il y a certaines fois, nous pensons que pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, nous devons avoir d'abord un bâtiment, un beau bâtiment, gloire à Dieu, lorsqu'on l'a. Celui-ci est formidable. Et puis, de la musique, formidable aussi, fantastique. Il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui jouent d'une façon fantastique. Merci Seigneur. Mais tout cela, ce ne sont que des à-côtés. Si la parole n'est pas prêchée, il n'y a pas d'église. Tout repose sur le livre. Tout repose sur la parole. Jésus n'avait pas une grosse organisation devant lui, derrière lui plutôt. Il n'avait pas de musicien, il n'avait pas de chorale, il n'avait même pas de bâtiment ou un lieu particulier. Il a prêché dans les champs, il a prêché sous les arbres, il a prêché d'une barque, combien de fois? Et pourtant, l'Église a été formée. Alléluia. Certaines fois, nous pensons qu'il faut tous ces accessoires, ces haut-parleurs et tout. Hein? J'ai prêché sans haut-parleurs. Ça, je peux vous dire que je sais ce que c'est. Je me souviens des premières campagnes qu'on a eues à Kinshasa, dans cette ville, dans cette immense ville d'aujourd'hui, plus de 8 millions d'habitants. À cette époque-là, nous n'avions aucun soutien, d'où que ce soit, tout simplement parce que l'organisation qui nous avait envoyé ne voulait pas que nous allions au Congo à cette époque-là. Il y avait la rébellion, il y avait la guerre, il y a beaucoup de missionnaires qui ont été tués à cette époque-là. Et c'était la puissance communiste qui cherchait à prendre le pouvoir. Ils avaient déjà pris le pouvoir à Brazzaville à travers une révolution. Nous étions là lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Et puis, il nous a fallu attendre et avoir demander un permis spécial pour traverser la frontière sur Léopoldville à cette époque où nous savions que Dieu voulait que nous allions prêcher cet évangile, ce plein évangile que nous connaissons, qui n'avait jamais été prêché, ce plein évangile, je dis bien plein, rempli, tout l'évangile, pas une partie seulement. Nous n'étions pas les premiers prédicateurs dans cette ville, certes non. Les baptistes, les presbytériens, les méthodistes, les disciples de Christ, l'armée du salut. Oh, ils ont fait un grand travail. Un grand travail. Ils ont apporté la parole de Dieu, les œuvres sociales. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais un élément manquait. Quel est cet élément? La Pentecôte. Je n'ai pas honte de la Pentecôte. J'ai vu ce que la Pentecôte peut faire sur des chrétiens traditionnalistes pour leur communiquer le feu nécessaire pour une transformation de la société aujourd'hui dans notre monde. Nous avons besoin d'une force particulière au milieu de ce monde désaxé. Ce monde désaxé dont les valeurs sont complètement traînées dans la poussière. Les valeurs morales, les valeurs spirituelles. On appelle bien ce qui est mal, on appelle mal ce qui est bien. La transformation de la société, de la pensée, on tombe dans des politiques et dans des philosophies païennes. Et combien de chrétiens se laissent influencer par la culture actuelle du monde? Jeunes gens, jeunes filles, faites attention. La culture actuelle du monde, dans la musique, dans l'expression, dans l'amour, ce qu'on appelle amour aujourd'hui dans le monde, toutes ces déviations, et on appelle ça normal. On appelle ça normal. Je me souviens de ce jeune homme à Kinshasa, quelque part à Kinshasa, qui vient très timidement vers moi. Et il ne savait pas comment s'exprimer. Il a dit, j'aimerais vous poser une question, mais je ne sais pas comment le dire. Voilà, bon, il paraît que, j'ai entendu dire que, il y a des hommes qui sont avec d'autres hommes et qui font comme s'ils étaient mariés. Il était très ennuyé, il ne savait pas comment s'exprimer. Il me dit, bon, je ne sais pas, j'ai entendu dire que ça se fait là-bas en Europe. Ah, je lui dis, mon ami, malheureusement, c'est quelque chose qui pénètre aussi en Afrique aujourd'hui. Toutes sortes de déviations morales, desquelles on n'a même pas le droit d'en parler en public, sinon on va être arrêté. Voilà. La tolérance, on appelle ça. La tolérance a une limite, mes frères. La tolérance a une limite. Bien sûr, il nous faut la sagesse dans le monde d'aujourd'hui, afin de ne pas tomber, ne pas être une occasion d'être arrêté dans le témoignage par ce qu'on appelle légal ou pas légal. Mais moi, je sais que la parole de Dieu est une légalité sur la morale, sur la conduite en toutes choses, au-dessus de tout ce que les hommes préconisent, soit dans leurs lois, soit dans leur comportement, soit dans leur façon de vivre. Mais cette façon de vivre est en train d'envahir l'Afrique aussi. Mais ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous. Et c'est ainsi que nous avons passé bien des pillages, des guerres, toutes sortes de problèmes aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, en Afrique. En Afrique. Nous vivons dans les derniers temps. Mais nous devons réagir contre cette façon de penser et cette philosophie. Se laisser aller. Se laisser aller même dans les églises. Parmi les chrétiens, se laisser aller cette conformité avec le monde qu'on laisse pénétrer dans l'Église. La dignité de la foi, la dignité de celui que nous adorons, la dignité de celui devant lequel nous nous présentons. Il y a une dignité à respecter. Je pense que nous devons faire attention de ne pas amener soi-disant que c'est cool dans la maison de Dieu des choses que Dieu n'approuve pas. Et ne pas ressembler au monde, mais plutôt ressembler à celui qui est notre modèle, c'est-à-dire Jésus le Seigneur. Lui faire honneur par notre comportement, par notre parler, même par notre musique. Je me souviens d'avoir été dans des églises où une musique sauvage, et on croyait que c'était formidable. Une musique sauvage comparée à celle du monde. Non, mes frères, non. Non. Il y a une ligne à respecter. Il y a une marche à respecter. Il y a un comportement à respecter. Il y a des principes dans cette parole. Jésus dit à Simon, avance en pleine eau. Ah, on aime rester là dans le port, là où les eaux sont calmes. On aime rester là, c'est calme, on se connaît les uns les autres, on parle la même langue, on est dans la même culture. Mais Jésus dit à Simon, mène en pleine eau et jetez vos filets pour la pêche. » Oui. Mais Seigneur, là-bas, loin du port, il y a les vagues, il y a le vent, il y a les dangers. Seigneur, du reste, nous avons passé toute la nuit à jeter nos filets, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, j'irai. Voilà le secret. Sur ta parole, j'irai. Combien d'entre nous avons essayé de faire des actions sociales, quelles qu'elles soient, essayer d'apporter du secours, de l'aide aux malheureux, d'essayer d'apporter la parole de Dieu à ceux qui ne la veulent pas. Et nous avons dit, Seigneur, j'ai pris aucun poisson. Mais est-ce que Jésus était dans ta barque? Voilà la question. Mène en pleine eau. Sors de ta culture. Sors de ton village. Sors de ta langue. Sors, va là-bas. Peut-être ça ne te plaît pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais si Jésus est dans ta barque, ça fera toute la différence. Il n'a jamais promis que nous aurions une vie facile, une vie sans problème, une vie repliée sur nous-mêmes, avec nos petites habitudes de chaque jour. Non, il va briser tout cela. Il va casser tout cela, mène en pleine eau. Mais ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Mène en pleine eau, pleine eau. Ça ne veut pas dire forcément de partir de France, de partir de l'endroit où nous habitons, non. Peut-être que de mener en pleine eau, c'est d'aller quelque part dans ces grandes villes, la grande ville de Paris ou ailleurs en France, pour faire une action inspirée par Dieu dans un certain domaine afin de sauver les perdus. Voilà. Se lancer à l'aveuglette peut-être pour toi, mais pas pour Dieu. Combien de fois j'ai engagé des actions, avec ma femme, nous avons engagé des actions sans savoir où ça nous menait. Notre problème est que nous voulons savoir à l'avance quels seront les résultats de notre action. Mais ça, c'est pas notre priorité, notre prérogative. Non. Notre responsabilité est d'obéir au Seigneur lorsqu'il appelle, lorsqu'il envoie, et de prendre nos rames et de ramer, et de mener le bateau là où le Seigneur veut que nous jetions le filet. Non pas à la canne à pêche. Ah, il y en a beaucoup qui essayent avec la canne à pêche. Ils sont assis bien gentiment là au bord de la rivière, n'est-ce pas, sur un petit dépliant. On y met son appât, on jette l'hameçon, on regarde le bouchon. Quand il saute un peu, on le sort. Ah non, ça a raté, on remet. Ce n'est pas le genre de pêche que nous devons faire dans ces temps de la faim. Il nous faut le filet. Et il nous faut aller au large. Si tu n'as rien pris jusqu'à maintenant, c'est que Jésus n'était pas dans ton bateau. Voilà. Mène en pleine eau. Menez en pleine eau. Lâchez vos filets pour la pêche. C'est ainsi qu'il y a 43 ans que nous sommes à, que nous avons quitté la ville de Brazzaville, où nous avions passé à travers la Révolution. 45, oui. La ville de Brazzaville, où nous avions subi la Révolution communiste, il devenait presque impossible de travailler. Nous avons été 3 ans là. C'était difficile, un terrain difficile et dur. Et nous sommes arrivés à Léopoldville sans pouvoir préparer la place, puisque il y avait la guerre, la frontière était fermée, on a eu un permis spécial après beaucoup de demandes. Et il a fallu trouver rapidement, lorsque nous sommes arrivés, là, à traverser le fleuve, le grand fleuve du Congo à cet endroit, et trouver un logement quelque part dans la cité africaine. On a trouvé un logement, cette maison était remplie de punaises. Nos petites filles, elles étaient toutes petites à ce moment-là, Muriel était un bébé. Et puis, Voilà. Sans avoir aucune assurance d'un soutien quelconque. Mais Jésus a dit, menez en pleine eau, jetez vos filets. Obéissance. Nous étions allés à l'ambassade pour nous faire enregistrer. Et là, lorsque nous étions là, à l'ambassade de Suisse, je dois dire, puisqu'il paraît que je suis un Suisse, aussi un de ces indésirables chassés de France, huguenots, de la région de Bordeaux. Si ma femme était de la région d'Aix-en-Provence avec ses parents, les Vernaux de la région de Bordeaux. Et alors, lorsque nous étions là à l'ambassade, un téléphone vient de la Croix-Rouge danoise, qui avait un hôpital à cette époque dans la ville, et qui demande, n'avez-vous pas, s'il vous plaît, une infirmière quelque part qui pourrait nous aider dans notre hôpital pour la formation et l'enseignement de nos infirmières congolaises et tout ça, on est en pénurie, et patate, elle était là. Ah, vous pouvez commencer demain. Elle a dit, non, écoutez, je viens d'arriver, donnez-moi quelques jours pour nous installer. Là où nous étions. Le Seigneur avait pourvu, déjà. Quelques jours plus tard, subitement, c'était très tôt le matin, peut-être 4 heures du matin, ça commence à tirer partout. Ça tire, les armes automatiques et tout, dans tout le quartier où nous étions. Rapidement, on avait un chien, rapidement on rentre le chien qui aboyait comme un fou. On rentre dans la chambre de nos trois petits qui étaient en train de dormir. On se met à genoux là en train de prier avec ma femme. Et ça tirait. Quand le jour s'est levé, tout s'est calmé. Merci Seigneur. Et à cette époque-là, je me souviens, un matin, c'était juste avant le lever du soleil. Dieu m'a parlé. Oui, ça arrive, c'est vrai. Et je savais que c'était Dieu. Tout le monde rêve toutes les nuits, il n'y a pas de problème. Mais ce matin-là, j'ai rêvé quelque chose. Je savais que c'était Dieu. Je me voyais dans une grande forêt épaisse, très épaisse, des arbres partout. Et une multitude de serpents dans les arbres, sur le sol. Plein de serpents de toutes les tailles. Et c'était tout en couleurs, tellement réel, tout en couleurs dans mon rêve. C'est marqué dans ma mémoire. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Si tu es fidèle, ces serpents ne te feront point de mal. » Et je me suis réveillé. J'ai dit à ma femme, « Le Seigneur m'a parlé. » Et je vous assure qu'on était au milieu des serpents. On a tout fait pour nous chasser du Congo. Pourquoi ? Parce que nous avions cassé les règles établies par les organisations religieuses du Congo qui avaient divisé le Congo selon leur pensée, tel territoire est pour les presbytériens, tel autre pour les baptistes, tel autre pour les pentecôtistes, tel autre pour les disciples de Christ, tel autre, séparation. Mais maintenant, c'est l'indépendance, depuis peu de temps. C'est l'indépendance, toutes ces règles tombent. Mais eux, ils veulent maintenir les règles. Nous sommes venus dans le pays et nous n'avons pas passé par leur bureau central d'organisation qui s'appelait l'Église, le Conseil protestant du Congo. Nous avons eu nos premières campagnes d'évangélisation. Des foules immenses sont venues. Au début, nous n'avions pas de haut-parleur, pas d'amplificateur. Une vieille deux chevaux avec laquelle j'avais deux chevaux Citroën, si vous ne savez pas. Que j'avais acheté d'occasion à Brazzaville et nous avions réussi à traverser avec. Et puis, nous avions un groupe de fidèles déjà qui avaient été touchés par la parole. C'était à travers des réunions dans des maisons avec des particuliers. C'était des baptistes et des presbytériens de toutes sortes de dénominations, des gens sincères. Et alors, ils nous posaient toujours cette même question. Que pensez-vous de la guérison divine ? Que pensez-vous du baptême du Saint-Esprit ? Bon, je leur dis, on va voir dans la parole de Dieu, c'est pas ce que je pense, mais ce que la Bible pense. Et on lisait tout cela. Et ils étaient touchés. Et voici qu'un jour, une jeune fille qui était très, très malade, elle avait la maladie SS. Hein, c'était une anomalie de la rate et comment est-ce qu'elle est le nom ? Le sang est, c'est dans le sang une anémie, voilà, une anémie qui mène jusqu'à la mort malgré les transfusions de sang. Pour faire l'histoire courte, cette jeune fille a été complètement guérie par la puissance de Dieu. Et cet homme a dit, venez prêcher, venez nous annoncer l'évangile dans ma maison. Un ancien de l'église baptiste. Nous sommes allés, nous avons parlé. Et régulièrement, il demande, les gens qui venaient là demandaient, vous ne voulez pas aussi prier pour moi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et alors, je priais pour ces gens-là. Quelque temps plus tard, lorsque je revenais, depuis Brazzaville, je passais la frontière quand elle était ouverte. Et je vois cet homme qui vient vers moi. Oh, pasteur Vernon, tu te souviens de moi? Non, je vois beaucoup de gens. Il me dit, j'étais lépreux. Ah bon? Mais oui, j'étais lépreux. Un jeune homme qui était lépreux, complètement guéri de sa lèpre. Un autre que je rencontre, il me dit comme ça, tu te souviens de moi? Non, je ne m'en souviens pas. Tu ne te souviens pas? J'avais un diabète épouvantable. On m'a amené sur une civière. J'avais des plaies dans tout le corps. Et puis tu as prié pour moi. Regarde-moi maintenant. Oh Jésus. Je vous assure que ça fait du bruit dans la ville. Des pasteurs baptistes ont commencé à me demander de prêcher dans leur église. Je me souviens le pasteur Loubikoulou. C'était dans la commune de Kitambo. J'ai prêché la parole. Après avoir prêché, il vient vers moi. Vous ne voulez pas prier aussi pour les malades? D'accord, si c'est votre désir. Et le message s'en allait. Nous n'avons rien forcé, simplement la parole, c'est tout. Ce dont le monde a besoin, c'est de connaître la parole de Dieu et amener les gens à l'obéissance de cette parole. Et bientôt, nous avons vu, il y a un travail à faire dans cette ville. Ils n'ont jamais eu le message dit de la Pentecôte. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui détestent entendre le nom de Pentecôte. Ils s'imaginent une espèce de secte farfelue. Du reste, je me souviens, dans mon enfance, enfin enfance, quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, avant que je sois marié, eh bien, nous avons été carrément rejetés de la famille à cause de la Pentecôte, parce que mon père était d'abord rattaché à l'Église nationale protestante en Suisse. Il avait été missionnaire protestant, réformé, au Gabon. Mais il avait été amené au message de la Pentecôte à travers une guérison miraculeuse de ma mère qui était malade du cœur. Et le médecin avait dit, vous ne pouvez plus retourner en Afrique. C'était à travers des campagnes d'évangélistes qui venaient d'Angleterre à cette époque-là. Et puis, mes parents ont vu des grandes guérisons dans ces campagnes de George Jeffries, pour ceux qui connaissent ce temps-là. Et mon père était tellement enthousiasmé. C'est ça dont nous avons besoin, pour nous-mêmes et pour l'Afrique. Et puis, ma mère, très sceptique, parce qu'on était très protestants dans la famille, avec une tradition d'huguenots qui ont souffert pour leur foi. Vous connaissez tout ça, hein? Alors, la Pentecôte, on s'en méfie. Elle est venue quand même, voyant que son mari était très encouragé par ce qu'il avait entendu et vu. Elle est venue là, et quand l'évangéliste priait pour les malades en imposant les mains les uns après les autres, elle a dit en son cœur, « Seigneur, je ne veux pas me mettre en spectacle devant tout le monde et me mettre dans la ligne. Si vraiment c'est toi, tu peux me guérir là où je suis sur ma place. » Le Seigneur l'a entendu, paf, il l'a guéri là sur place. Pour eux, c'était vraiment une révélation. Ils ont parlé avec ces évangélistes. On a prié pour eux, pour le baptême du Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils sont retournés en Afrique. Dieu les a employés d'une façon extraordinaire dans un grand réveil en 1936, là-bas au Gabon, qui a secoué le pays jusqu'au moment où il s'est fait jeter dehors de l'organisation réformée à cause du pentecôtisme. On admettait bien qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, qui était, disons, inhabituel, un réveil. Oui, on l'admettait. Mais nous ne sommes pas des pentecôtistes, voilà. Peu importe. C'est vrai que dans le monde, on trouve des pentecôtistes soi-disant farfelus. Vous n'avez qu'à venir à Kinshasa. Des gens qui prétendent être pentecôtistes, qui font, qui sont complètement hors de la doctrine, hors de l'enseignement et hors de la morale. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas cela que nous préconisons. La parole. Voilà, la discipline de la parole. L'obéissance à cette parole. Voilà. C'est ainsi que le Seigneur travaille. Et c'est ainsi aussi que le Seigneur a commencé une œuvre là-bas dans la ville de Léopoldville. Et que nous avons vu le besoin d'apporter ce message. En sachant que tous ceux qui nous ont précédés ont fait un merveilleux travail. Nous sommes loin de piétiner ce qu'ils ont fait en le méprisant. Non, ils ont apporté la parole, l'enseignement, les soins médicaux, beaucoup de bonnes choses, des écoles et tout cela. Mais cette chose qui manquait. Et c'est ainsi que nous avons commencé dans une grande bataille, je dois dire. On a commencé à porter plainte contre nous, disant que nous étions, que j'étais un espion communiste venu de Brazzaville, travaillant sous le couvert d'une église contre le gouvernement congolais. Des plaintes ont été portées contre moi. Et j'ai connu beaucoup de convocations dans différents, à la police, à la justice. Et à cette époque-là, il y a toujours eu un frère congolais qui m'accompagnait et qui disait, si vous voulez l'arrêter, vous devez nous arrêter, nous aussi, parce que c'est nous qui l'avons fait venir. Et il prenait ma défense. Jusqu'au jour où, je me souviens, une plainte avait été déposée auprès du ministre de la Justice. Nsinga, il s'appelait. Un homme bien connu, qui a du pouvoir. Et on m'avait calomnié au point de dire que, voilà, je suis un raciste, je refuse de serrer la main au noir, que toutes sortes de choses incroyables. Et nous sommes convoqués, là, devant le ministre de la Justice, Nsinga, bien connu. Le parti d'opposition, si je puis dire ainsi, était là présent, ceux qui s'opposaient à nous. Et moi, j'étais là, pauvre petit visage pâle. Et puis, j'avais peur. Ah, bien des fois où ça tremble là-dedans, vous savez. Je ne veux pas dire que je suis un héros, certes non. Être un héros, ce n'est pas ne pas avoir peur. Non. Et j'étais là assis, et puis ils commencent à parler contre moi, ces gens-là, de toutes sortes de choses, m'accusant de racisme, m'accusant de toutes sortes de choses incroyables. J'écoute, réagir, pourquoi réagir? Pourquoi dire qu'ils mentent? Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici. Si tu veux que nous soyons ici, c'est à toi de nous défendre. Argumenter pourquoi, sur quoi, comment. Ils sont nombreux, je suis là. Moi, avec un frère congolais, Kumbale, un brave homme qui a toujours été à nos côtés. Et puis, après avoir parlé, le ministre de la Justice, eux, ne le savaient pas. Mais la femme du ministre de la Justice venait prier dans notre église. Et ses deux fils qui étudiaient en France, ils étaient en problème avec le père, ils n'écrivaient jamais, mais pendant les vacances, ils sont venus, et ils sont venus à l'église, amenés par la maman, et ils se sont réconciliés avec le papa. Maintenant, on porte plainte contre moi devant ce papa. Il écoute, elle écoute, elle écoute. Au bout d'un moment, il dit, mais vous appelez votre organisation Assemblée de Dieu, mais Dieu, il est où là? Ah. Et il dit comme ça, il y a une grande église là-bas sur la colline. Il n'a pas voulu donner le nom de l'église. Une grande église. Qui est le pasteur de cette église? Je me lève. Il dit, merci. Vous pouvez partir. Les autres étaient comme ça. Ils s'attendaient qu'il allait nous expulser, etc., etc. Tout étonné. Dieu a ses moyens. Va en eau profonde. Tu auras des tempêtes, il y aura des vents, mais je serai avec toi. Voilà, s'il est dans notre barque. Une autre fois, on m'avait calomnié, là c'était un soi-disant missionnaire. Un soi-disant missionnaire très jaloux, méchant, avec de mauvaises intentions. Et il est allé voir un monsieur qui jusqu'à maintenant, bon, c'était pas un ange, ce monsieur-là. C'était un général de l'armée, de la famille du président Mobutu, et un homme qui avait plusieurs femmes. Et sa deuxième femme s'était convertie, transformée par la grâce de Dieu. Et voici que c'est à lui que nous avons acheté. Je vous raconte beaucoup d'événements, mes amis, mais ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Ça prendrait beaucoup de temps et beaucoup de détails manquent, peu importe. Mais j'aimerais rendre gloire à Dieu. Pour vous dire comme ce que Dieu fait quand il est dans votre barque. S'il vous a envoyé quelque part pour faire quelque chose qui le concerne et qui concerne le royaume, et que vous obéissez, il est responsable. N'oubliez pas cela. Responsable de votre sécurité, responsable de vos habits, responsable de votre nourriture, responsable de vos enfants et de votre logement. Et il le sait. Nous avons un Dieu responsable. Et c'est ce que je peux voir. J'ai vu dans ma vie. Tout ce qu'il demande de nous, c'est l'obéissance. C'est tout. Car nous sommes sur le terrain de l'ennemi. Voilà. Et ce général, donc, c'est à lui que nous avions acheté l'endroit où nous avons notre grande église aujourd'hui. Il y a plus de 25 ans de cela. Où nous avons notre grande église aujourd'hui. Pendant des années, j'ai travaillé dans l'implantation d'églises, je partais en brousse, je suis parti sur des pirogues à moteur avec les pêcheurs du fleuve Congo, on dormait sur les bancs de sable pendant la nuit, et on marchait après dans des coins impossibles pour aller prêcher l'évangile dans des villages, et bien souvent des villages entiers se réunissaient avec les chefs des villages, après avoir marché des heures, couvert de poussière, dans la boue et tout ça, fatigué, je trouve toute une foule qui m'attend avec les chefs, avec leurs costumes coutumiers de chefs de tribu, et avec des vieux fusils à piston, vous savez qu'on charge par la gueule en haut, et puis à peine ils m'ont vu, ça fait un grand honneur, pensez donc. Ils font leur discours et tout ça, après ils me disent comme ça, « Bon, nous sommes là, tu vas prêcher. » J'ai pas envie de prêcher, Seigneur. Fatigué, assoiffé, mais ils ont une soif différente de la mienne. Soif de connaître la vérité parce qu'ils ont entendu parler. Cet homme prie pour les malades et les malades sont guéris. Hein? Nous sommes restés dans ce village pendant plusieurs jours. Vous voyez, je ne finis pas une histoire, j'en commence une autre, c'est terrible. Je restais plusieurs jours là dans ce village. Après avoir prêché la parole de la repentance devant un auditoire, en tout cas, ils n'étaient pas habillés comme vous. Certains avaient très peu de vêtements, très peu. Et puis je vois encore cette maison, là, c'était dans un pays où il y a plutôt des savanes, et on trouve des arbres très tordus, on ne trouve pas des arbres droits. Alors tous les poteaux de la maison étaient des poteaux tordus comme ça, mais c'est tout du bois très dur. Et puis, l'endroit était rempli de monde. Je dis aux gens, voilà, maintenant nous avons prêché l'évangile, nous avons prié pour les malades, j'aimerais savoir ce que Dieu a fait pour vous. Et puis, il y a une maman là-bas derrière, comme on dit dans le pays, une maman, hein, c'est respectable, qui se lève. Elle avait juste un chiffon sale autour des reins, c'est tout. Elle se lève sur son bâton. Jésus m'a guéri. Ah, Jésus t'a guéri, mais c'est bien ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? J'étais aveugle, maintenant je vois. Hein? C'est pas peu de choses. Je dis aux gens, vous connaissez cette maman? Oui. Elle était aveugle? Oui, elle était aveugle. Alors j'ai dit à la maman, mais tu es de ce village? Non, je ne suis pas de ce village. Je suis de Kenge. Oh, Kenge, c'est loin, Kenge. Mais comment tu es venu? Pourquoi tu es venu? Ah, mais j'ai entendu dire, les gens ont dit, Jésus était là dans ce village. Alors, moi j'ai besoin de Jésus. Et je suis venu. Mais comment tu es venu alors, puisque tu es aveugle? J'ai mon petit garçon, un petit gars comme ça, tout nu. Il tenait le bout du bâton. Et moi, l'autre bout. Et c'est ainsi qu'on a marché pour arriver jusqu'ici. Ah, Jésus. Souvent, je me plains parce que je suis fatigué. Je me plains parce que je n'ai pas de voiture. Je me plains parce que je n'ai pas un bateau à moteur pour monter le fleuve. Je me plains parce que... Mais, Seigneur, j'ai appris une bonne leçon. Fais ce que tu peux et Dieu fera ce que tu ne peux pas. Je n'ai peut-être pas grand-chose. À cette époque-là, je n'avais que mes jambes. Mais le Seigneur m'a dit, tu as des jambes. Utilise-les. Combien de fois, bloqué sur le fleuve, avec pendant la saison sèche, sur les grosses barges des transports commerciaux, là, sur les barges, avec les chèvres, les régimes de bananes, la foule qui est là, les ivrognes qui boivent l'alcool, la bière, n'importe quoi. Je suis là avec eux, sur le bateau, à remonter le fleuve, ou à le descendre, et tout d'un coup, paf, on est collé sur un banc de sable. Pas assez de profondeur. On est là pendant 2 jours, 3 jours. Pas d'eau à boire. J'ai bu l'eau du fleuve du Congo. Oui. J'ai dit, Seigneur, je vais être malade. J'ai jamais été malade. S'il est dans votre barque, mes amis, c'est là le secret. Dans votre barque. Vous n'allez pas manquer de vous plaindre. Ça, je me suis plaint plusieurs fois. Mais sa patience. Sa patience, comme quand je remontais le fleuve au Goué, au Gabon, dans une petite pirogue, 3 dans la petite pirogue, chacun une pagaille, on est en train de pousser contre le courant. Voilà, il fait chaud, il fait chaud. Arrêtez pas de pagailler, vous allez être entraîné par le courant. On suit le plus près possible le bord, il y a moins de courant sur le bord, on y va. Et là, les vedettes rapides des chercheurs de pétrole et des exploitants forestiers passent à toute vitesse. Seigneur Jésus, je fais un travail qui dépasse tout ce qu'ils font. Regarde, je suis là en train de pagayer. Vous savez que Dieu a son école? Ah oui. Je suis né là-bas au Gabon. J'ai grandi là-bas au Gabon. Évidemment, mes études ont été perturbées. Et j'ai appris le principal avec ma mère, qui était très sévère, croyez-moi. Très sévère, elle n'avait pas fait des études d'enseignante, bien sûr. Elle était souvent persuadée que je mettais la mauvaise volonté, mais j'aurais bien voulu savoir la réponse, rien que pour ne pas recevoir la claque ou la gifle. Mais Dieu a son école. Vous voyez, Dieu ne nous appelle pas tous à passer par le même chemin. Votre chemin n'est pas mon chemin. Chacun d'entre nous, chaque individu passe par une école, à plus forte raison lorsqu'il veut servir le Seigneur. Si vous pouvez faire des hautes études, faites des hautes études, mais que ce soit pour la gloire de Dieu, pas seulement dans l'intérêt de vous remplir les poches et d'avoir un avenir assuré. Quelle est l'assurance que nous pouvons avoir avec l'argent ou l'or que nous mettons de côté? Tout perd sa valeur aujourd'hui. Il y a des valeurs qui ne périssent jamais, ce sont celles du royaume des cieux. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et il y a des priorités à respecter. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus. Dans Matthieu, vous connaissez cela. Donc, pour nous, enfants de Dieu, il y a des priorités. D'abord, les valeurs du royaume des cieux. Le royaume des cieux est sa justice, tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est transparent, tout ce qui glorifie Dieu, c'est ça, sa justice. Premièrement, le royaume des cieux est sa justice. Et tout ce dont vous avez besoin, le travail, l'argent, la nourriture, le vêtement, la maison, l'épouse, l'époux, ah oui, il vous donnera le meilleur. Moi, il m'a donné le meilleur avec cette petite Hollandaise. Si nous respectons les priorités, nous allons nous réjouir. Mais beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, ils placent les valeurs différemment. D'abord mon intérêt, d'abord ma famille, d'abord ma société, d'abord ma maison, d'abord. Et ensuite, en dernier, le royaume des cieux. On vient à l'église, bien sûr, mais on n'a pas placé les priorités à leur bonne place. Et c'est pour cela qu'on ne prospère en rien, ni spirituellement, ni matériellement. Et c'est ainsi que nous avons commencé à Kinshasa. Je fais toujours des parenthèses et tout ça, excusez-moi. Nous avons commencé à Kinshasa. Et puis, il y avait ce général, justement, un homme qui n'était certainement pas un ange. Ivrogne, coureur de femmes. Mais d'une façon ou d'une autre, le Seigneur nous l'a mis là comme protection. Et j'ai souvent pensé à Élie lorsqu'il était au bord du torrent. Dieu l'a nourri. Comment ? Avec un oiseau impur, un corbeau. Dieu aurait pu utiliser un oiseau pur. Non, Dieu a utilisé un oiseau impur pour apporter à Élie la nourriture dont il avait besoin. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu utilise les oiseaux impurs pour protéger ses enfants. Amen. Ah oui. Et même pour les nourrir. Même pour les nourrir. Un jour, nous étions harcelés de toutes parts. De toutes parts. On m'a convoqué au service de la justice. Et c'est un homme qui n'était pas du tout autorisé à nous faire cette demande. Il commence à nous menacer pour nous faire peur et tout ça. Après, il demande nos passeports. Mais ce n'est pas là, au service de la justice, qu'on a besoin des passeports. C'est au service d'immigration. Mais pourquoi voulez-vous notre passeport? Non, etc. Enfin, je dis, mais on ne se promène pas avec le passeport. On a notre carte d'identité locale. Non, apportez vos passeports. Si vous ne l'avez pas ici, apportez cet après-midi. On se dit, bon, ce sont des manigances. Ils veulent avoir nos passeports et nous expulser d'une façon sournoise hors du pays sans passer par les autorités légales. Et puis, nous sommes allés voir un monsieur qui était un secrétaire général au Parlement congolais, qui était dans notre église. On lui explique l'affaire. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il a téléphoné à son collègue du département de la justice. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Depuis quand? Et puis, l'emploi des mots que je ne voudrais pas dire ici. Depuis quand est-ce que la justice, là-bas, le bureau de la justice s'occupe des passeports des étrangers? Mais explique-toi, qu'est-ce qui se passe? Il a expliqué. Bon, ça va. C'était un certain Gala Mouloumé qui voulait nos passeports. Je n'ai pas oublié ses noms. Hein. Et puis, bon, là-dessus, mais évidemment, ça ne représente plus. Et puis là-dessus, je suis accusé, là auprès de ce général, d'être un raciste, d'être ceci, de cela, et surtout d'avoir volé 3 containers qu'il aura envoyés et d'avoir volé ces containers. Alors, quand on entend ça, ma femme et moi, on se dit, bon, on va aller voir ce monsieur là-bas parce que c'est un païen, il peut se retourner contre nous, tout ça. Et nous allons avec ma femme, là, au commandement de la ville. Il était responsable de toutes les autorités militaires de la ville. À peine il entend que nous sommes là, il nous fait rentrer devant tous les autres qui attendaient dans la salle d'attente. Il nous respectait beaucoup. Et puis, nous rentrons là. Et puis, bonjour, général, etc. Bonjour, etc. Alors, je lui dis comme cela, écoutez, général, si le gouvernement congolais veut nous expulser du Congo, n'est-ce pas, s'il vous plaît, donnez-nous le temps de quitter. Nous ne voulons pas quitter dans les 24 heures. Nous n'avons rien fait de mal contre le pays. Et d'après les bruits qui courent, ce qu'on raconte contre nous, ce sont des mensonges, bien sûr, mais comment pouvons-nous le prouver, etc., etc. Alors, il me regarde. Il me dit, vous êtes pasteur, n'est-ce pas? Oui, général. Mais en tant que pasteur, vous devriez être habitué à vous battre contre les mauvais esprits. Alors, je me dis, Seigneur, tu me donnes un message à travers ce corbeau. Tu me donnes un message à travers ce corbeau. Et puis, il dit, ne vous en faites pas. Votre passeport est là. Il nous avait demandé de garder nos passeports. Si on veut vous expulser, qu'on passe par moi d'abord. J'ai les passeports chez moi. Alors, notre passeport était dans son tiroir, dans son bureau, nos passeports. Ne vous en faites pas. Voulez-vous que j'envoie des soldats, de nos gardes pour garder votre place là où vous avez votre église? J'ai dit non, général, non. Je crois que j'ai meilleure protection qui vient d'en haut. Quelque temps plus tard, les choses allaient très mal. On voulait absolument nous expulser du pays, nous faire du mal, etc., etc. Avec ma femme, nous disons, nous allons voir le général Bolosi et parler avec lui. À cause de tout ce qui se raconte, nous sommes dans l'insécurité. On va le voir. Ah, passeur Vernouet là, faites-le rentrer. On rentre. À peine on est rentré, parce qu'on menaçait de prendre notre terrain, de saisir la propriété et toutes sortes de choses. Alors, nous sommes là devant lui, il prend le téléphone, commence à téléphoner. Appelle ma femme qui voulait savoir qu'est-ce qu'elle. Vous voulez parler à vos enfants qui sont en Belgique? Non, c'est pas ça. Ah, cette ligne va. Vous savez, les lignes téléphoniques là-bas. Alors, il prend une autre ligne. Il venait d'avoir, à cette époque-là, un séminaire du parti politique de Mobutu, à Nselé, en dehors de la ville. Et il y avait le ministre de la Justice qui était là-bas. Il cherchait à contacter le ministre de la Justice. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il. Pourquoi il veut contacter le ministre de la Justice? Et puis, il a, au bout du fil, il avait mis le haut-parleur du téléphone pour qu'on écoute. Il parle en lingala, mais on comprend assez de lingala pour suivre la conversation. Alors, comment s'est allé pendant votre réunion? Il parle des affaires politiques. Mais au bout d'un moment, il lui dit, dis donc, tu connais par hasard le pasteur Jacques Verneau? L'autre lui dit, oui, je le connais. Eh bien, dis donc, tu ferais bien de faire quelque chose pour aider ces gens. On est en train de les harceler maintenant. Puis, je t'assure, si on arrive à lui enlever la propriété où il a son église, moi, j'interviens. Je reprends tout, parce que c'est lui qui nous avait vendu cette propriété. Je reprends tout, il n'y aura plus d'église. L'autre, Singa, lui dit, non, ne fais pas ça. Bon, si tu ne veux pas que je le fasse, tu ferais bien mieux de les défendre. Il croche son téléphone, il nous regarde avec un grand sourire. Bon, vous pouvez aller. Il était venu simplement pour que nous... Il nous avait appelés, donc. Oui, c'est vrai, il nous avait appelés. Et puis... il nous regarde la main. Bon, vous pouvez partir. Au revoir, général. Au revoir. Et puis on s'est quitté. Frères et sœurs, si Jésus est dans votre barque, c'est là le secret. Il va employer même les corbeaux pour prendre votre défense. Il a dit, jetez vos filets pour la pêche. Pas la pêche à la ligne, mais le filet. Nous avons commencé dans cette église, c'était un bâtiment, c'est un bâtiment qui a été construit avant l'indépendance, c'était à la limite de la ville, de Léopoldville, il s'appelait La Borne. Bon, maintenant, la ville a grandi énormément, on a dépassé la limite de Léopoldville d'autrefois, mais nous avons gardé le même nom, l'église de La Borne, c'est connu dans la ville. Et par une intervention de Dieu extraordinaire, enfin, c'est une longue histoire que je passe, nous avons pu acheter cette maison, le terrain là autour, il y avait un restaurant en bas, en haut des quelques chambres, et puis une immense piscine dans le jardin. Et nous avons commencé les réunions avec une vingtaine de personnes, 24 je crois, la toute première réunion. Nous avons agrandi cet endroit 5 fois. Nous avons construit autour du bâtiment principal une charpente métallique. Aujourd'hui, nous avons dans ce lieu 3 cultes tous les dimanches, le premier à 7h30 le matin, avec une moyenne, je dois dire, une moyenne d'à peu près 8000 personnes tous les dimanches. Les 2 premiers cultes, en général, c'est moi qui les prêche, les 2 premiers cultes en français, tout en français. Le troisième culte se fait bilingue. Bilingue, le premier culte commence à 7h30 jusqu'à 9h30, merci, jusqu'à 9h30, le deuxième à 10h jusqu'à midi, et le troisième midi 30, ainsi de suite. Rempli. Bon, à mesure que ça grandissait, on achetait des chaises, on achetait encore des chaises avec l'argent que donnaient les chrétiens. On a agrandi 5 fois, comme je vous ai dit. Et puis, on a commencé à former beaucoup de jeunes gens au ministère. Des jeunes hommes au ministère. Ils venaient dans mon bureau, je sens que le Seigneur m'appelle. Ah, si c'est le Seigneur qui t'appelle, c'est l'autorité supérieure. Mon devoir à moi, c'est de t'aider à réaliser cet appel. Il faut d'abord que tu prouves ton zèle et ton appel dans l'Église, parce que c'est l'Église qui va t'envoyer, c'est pas moi. Il faut que l'Église te connaisse. Et nous avons différentes activités dans l'Église. Bien sûr, avec le temps, nous avons pu avoir notre propre radio, notre hôpital, le centre, un centre médical, hôpital, on fait des opérations et tout. Nous avons aussi notre école avec 900 élèves à l'école. Et tout cela, s'est développée petit à petit sans aucun argent de l'extérieur. Et c'est ça que j'aimerais souligner. Quand les cœurs sont touchés, c'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. Bien sûr, avec la télévision et la radio, nous touchons toute la ville. Une ville de 8 millions d'habitants, plus Brazzaville de l'autre côté du fleuve, qui nous reçoit très bien, et au-delà, avec un émetteur de 3500 kilowatts. Donc, nous dépassons même la ville de Kinshasa, avec la radio. Et tous les dimanches, d'après l'estimation qui a été faite par des professionnels, ils ont estimé que nous avons un auditoire régulier avec la radio journalier d'au moins 300 000 auditeurs. Une bonne église, vous ne croyez pas? On émet à partir de 5 heures du matin jusqu'à minuit. Et tous les jours, il y a des messages qui passent. Et alors, ce jeune homme qui dit qu'il a été appelé par le Seigneur doit rentrer dans une des activités de l'église. Il y a toutes sortes d'activités, les départements d'évangélisation, le département des enfants. Nous avons des clubs bibliques à travers la ville. Un frère s'occupe, un de nos pasteurs s'occupe particulièrement de ce ministère. Et tous les dimanches, à chaque culte, nous avons toute une bande d'enfants, plus de 1000 chaque fois, n'est-ce pas, qui ne sont pas dans le grand auditoire. Il faut laisser la place aux adultes dans le grand auditoire. Et ils sont à part, où on leur donne des leçons qui leur sont appropriées pour leur âge. Mais si vous pouvez nous aider en venant, vous spécialistes dans le domaine des enfants, ça nous aiderait beaucoup. Il y a des besoins immenses, mes frères. Et puis, à part cela, nous avons aussi des équipes contre le sida. Hein, et avec tout un programme. Vous savez que la ville de Kinshasa est à peu près à 35% infectée par le sida. Et nous avons des équipes qui vont dans les écoles, l'université, les camps militaires, les camps de la police, et on est très bien reçu partout, même dans les écoles catholiques, à cause du programme que nous présentons. Nous ne présentons pas le condom, mais nous présentons ce que la parole de Dieu nous enseigne. L'obéissance à la parole de Dieu et la fidélité dans le mariage. Et le mariage, pas de relation hors du mariage. On insiste beaucoup là-dessus. Ah, je vous assure, il y a des désordres incroyable dans notre société. Une corruption à tous les niveaux. Quand j'ai vu ce jeune homme qui venait un jour avec cette jeune fille dans mon bureau, la jeune fille tenait un bébé dans les bras, elle pleurait à vous fendre le cœur. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle dit, mais il ne veut pas me marier. Ah bon? À qui est cet enfant? Mais c'est son enfant. Nous sommes étudiants à l'université. Nous vivons ensemble. Mais il dit que je ne suis pas la femme de sa vie. Alors, le gars dit, non, ce n'est pas la femme de ma vie. Du reste, je n'ai pas fait le mariage. J'ai dit, vous n'avez pas honte? Tu n'as pas fait le mariage? Non, je ne suis pas allé devant l'église ni devant l'État. Ah, mais il n'y a pas moins mariage. Regarde cet enfant. Regarde cet enfant. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Hein? Qu'on quittera son père et sa mère et qu'on s'attachera à sa femme. Tu es déjà attaché à cette femme. Tu as un enfant. Tu es responsable de cet enfant. Tu es déjà virtuellement marié. Cet enfant a besoin de papa et de maman. Ah, mais je ne suis pas allé devant l'église. J'ai dit, mais ça, c'est venu bien plus tard. Bien plus tard. À cause de l'infidélité de l'homme, dans sa parole et de son engagement, il a fallu un contrat légal. Il a fallu se présenter aussi devant Dieu pour avoir la bénédiction. Mais au début, ce n'était pas comme ça, je le dis. Les familles s'entendaient les uns avec les autres. Il fixait une date, on faisait une grande fête. À partir de ce jour-là, on savait telle est la femme de celui-ci et ils vivent ensemble et il n'y a pas de problème. Mais le cœur de l'homme étant ce qu'il est, il a fallu des lois. J'ai dit, tu es responsable de la vie de cet enfant. À tout moment, nous sommes devant de tels cas. Et des complications dans les mariages. Deuxième femme, troisième femme, la deuxième femme... Mais c'est celle qu'il aimait vraiment. Mais la première femme, c'est celle qu'on lui a imposé de marier pour raison politique dans la famille. Voilà. Maintenant, ils sont convertis. Ils viennent au Seigneur. Seigneur. Ils donnent leur cœur au Seigneur. Il y en a qui ont trois femmes, quatre femmes ou que sais-je. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Dites-moi un peu. Ah. Voilà. Je leur dis, voilà, je n'ai pas le droit de vous dire qu'un polygame ira en enfer, parce que la Bible ne me dit pas cela. Mais j'ai le droit de vous dire que vous n'avez pas une vie conforme qui glorifie le Seigneur. Voilà. Et nous savons très bien que dans de tels mariages, il y a des disputes continuelles, des jalousies, il n'y a pas la paix, et vous ne représentez pas le foyer qui glorifie Dieu. Si vous voulez marcher avec le Seigneur et être considéré comme membre valable de plein droit dans l'Église, priez que le Seigneur vous aide à voir ce qu'il faut faire. Parce qu'ils ont payé pour chaque femme la dot. Ouh là là, il y a des grosses sommes qui sont échangées pour les mariages. Et plus on gagne d'argent, plus on investit ça, entre guillemets, sur des femmes. Et puis on a des enfants avec chacune de ces femmes. Alors maintenant, ils doivent prendre leur décision. Et j'ai vu combien de fois Dieu intervenir. Je leur dis toujours, ce n'est pas à moi à vous dire quelle femme vous devez garder. Non, c'est à vous à décider devant Dieu. Alors souvent, comme je vous ai dit, la première femme, ce n'est pas leur choix, c'est celui de la famille. La deuxième femme, c'est leur choix. Peut-être qu'ils vont dire, je garde la deuxième femme. Bon. Et quand il parle à l'autre femme, peu importe, il ne va pas réclamer l'argent de la dot qu'il avait versée pour elle. Non. Elle sera reprise par sa famille et ils sont bien contents parce qu'à ce moment-là, ils peuvent la remarier et avoir encore de l'argent. Et bien souvent, ces femmes, lorsque le mari se donne au Seigneur, l'une de ces femmes va dire, « Oh, moi, je ne veux pas suivre ton Dieu, le Dieu des Blancs. Je m'en vais chez moi. » Bon, la solution est trouvée. Mais à tout moment, nous avons ces problèmes. Et il faut trouver des solutions. Mais je leur dis toujours, vous êtes responsables pour chacun de ces enfants qui sont venus au monde. Ces enfants n'ont pas demandé de venir dans le monde. Voilà. Et vous devez en prendre soin. Nous sommes dans une société complètement déséquilibrée à tout point de vue. Même les coutumes autrefois du respect des vieux, du respect de la société, tout ça disparaît. Surtout dans les grandes villes. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gangs de toutes sortes qui parcourent les villes, la ville. Ce n'est pas seulement des gangs civils, mais des gangs militaires, comme ils sont du bon côté du fusil. Et que vous passez dans des rues où ils se trouvent, ils vont vous arrêter et vous voler votre voiture. On ne peut pas sortir de la ville ou aller bien loin de la ville à cause du mauvais état des routes avec ces voitures, mais ils les emmènent quelque part à l'écart, ils les démontent en pièces détachées, ils vendent des pièces. À tout moment, il y a ces choses qui se passent. Même dans ma rue, on a volé 2-3 véhicules la nuit, des militaires. Vous voyez des militaires armés qui vous arrêtent, soi-disant pour voir les papiers. Et puis, ils saisissent votre voiture et vous rentrez à pied. Insécurité, on ne peut pas aujourd'hui partir comme autrefois je le faisais à travers le pays avec un véhicule pour aller prêcher l'Évangile. J'ai prêché l'Évangile sous une tente, dans bien des endroits. Mais maintenant, pour établir des églises, mais aujourd'hui, je ne préférerais pas y aller. Il y a trop d'armes qui circulent dans le pays. Mais mes frères, qui fabrique ces armes? Personne au Congo ne sait fabriquer une Kalachnikov, un revolver. Personne. Qui les fabrique? Les nations, les visages pâles, c'est eux qui les fabriquent. Hein? L'argent, le bénéfice. Voilà. On vend ces armes. Aujourd'hui, on se bat encore à l'est du Congo. Vous savez que j'ai vu sur l'Internet, pas plus tard qu'il y a 2 jours, qu'à partir du 1er janvier jusqu'à maintenant, il y a à peu près 7000 femmes qui ont été violées là-bas à l'est du Congo. C'est une situation épouvantable. Vous allez à Goma, au nord-est, il y a un hôpital spécial qui a été mis sur place pour soigner ces pauvres femmes et jeunes filles qui ont été violées soit par les rebelles, soit par l'armée congolaise. Actuellement, ils se sont arrangés avec le Rwanda, le gouvernement congolais avec le Rwanda pour former des armées pour lutter contre les rebelles Hutus qui sont au Congo. Il y en a plus de 3000 à 5000 qui se cachent dans la forêt. Mais tous les partis violent les femmes. J'ai eu, il n'y a pas si longtemps, un homme, un docteur, vétérinaire, qui travaillait près de la frontière de l'Ouganda, au Congo. Il avait une ferme, il travaillait pour l'État, avec sa famille de 6 enfants. Un jour, les rebelles ougandais, vous savez qu'il y a des... Si vous êtes au courant de la politique là-bas et tout ce qui se passe, il y a plein de rebelles, comme ils appellent l'armée du Seigneur, des rebelles épouvantables, qui prennent les jeunes garçons de 12 ans, 13 ans, 14 ans, les forcent à se battre pour eux, et ils envahissent, ils passent la frontière, et ils ont passé la frontière là où était cet homme, avec sa famille. Lui n'était pas là. Quand ils sont arrivés, la maman s'est enfuie dans la forêt, et puis ils sont arrivés là, dans sa maison, et ils ont vu la grand-mère, ils voulaient la violer. La jeune fille de 20 ans voulait défendre sa grand-mère, malheureusement. Elle était violée là par combien de gars, je ne sais pas. Ils l'ont carrément détruite. Détruite. Elle a eu un enfant. Qui est le père? Personne ne le sait. À la suite. Le père, voyant cela, a décidé de rentrer à Kinshasa. Il lui a fallu 3 mois pour rentrer. Il n'avait pas l'argent pour prendre un avion quelconque. Il a marché avec sa famille. Il est allé jusqu'au fleuve, il a pris 2 occasions de bateau et tout ça. Il est arrivé à Kinshasa. Il est venu me voir au bureau. Sa fille malade. Il n'avait pas d'argent pour la soigner. Il travaillait pour l'État, il est allé demander de l'aide à l'État. Personne ne lui a rien donné. Rien. Rien. Il est venu. Alors, on l'a aidé, bien sûr. D'abord pour soigner sa fille. Il l'a amenée au médecin. On l'a soignée. Physiquement, elle va bien mieux. Mais moralement encore, elle est blessée. Elle ne veut même pas voir cet enfant. Le papa a dit, moi, j'ai pris l'enfant sous ma protection. Il est innocent. Voilà, voilà ce qui se passe pour nous. Mais je vous raconte une histoire. Il y en a combien d'autres? Ces femmes terriblement mutilées, elles n'osent même pas se faire soigner. Elles ont honte. On les rejette dans la famille parce qu'elles ont été violées. Aujourd'hui, on ramasse même de force des jeunes garçons. On abuse d'eux. Après, quand ils sont libérés, tout le monde les rejette. On les appelle, ce sont des femmes. Excusez-moi de parler de ces choses, mais c'est à pleurer. On souffre, mais il y a une église. Nous avons aujourd'hui 56 églises, extensions de notre église, qui sont dirigées par nos pasteurs, c'est-à-dire ceux qui sont convertis dans l'église, que nous avons formés, qui sont dans le ministère, et ils font des exploits. Quand je les entends prêcher, je me dis, merci Seigneur. Ça, c'est ma récompense. Des hommes remplis de l'esprit. Il y en a un qui a été empoisonné 2 fois dans la ville de Kisangani. Vous allez dans cette ville, c'est pour pleurer, c'est tout. Plus d'industrie, plus rien. Des quartiers entiers encore démolis, des impacts de balles partout contre les murs. J'y suis allé dans tous ces coins-là. À Goma, à Lubumbashi, nous avons une église là que le Seigneur bénit. Il n'y a pas eu tant de guerre à Lubumbashi. Il y a eu des déséquilibres politiques, bien sûr. Un pays à l'est qui regorge de richesses, le cuivre, le cobalt, le zinc, le diamant, l'or. Mais ce n'est pas possible. Et sur la côte ouest, il y a du pétrole. Mais tout le monde est pauvre, désespérément pauvre. Pour une terre qui produit, il y a suffisamment d'eau. Suffisamment d'eau. Il n'y a pas de sécheresse. On plante n'importe quoi, ça pousse. On ne souffre pas de la faim au Congo. Non, tout pousse. Mais voilà, la corruption à un niveau incroyable. Frères et sœurs, nous avons besoin de vos prières. Vous n'êtes pas conscient peut-être de ce qui se passe là-bas, mais je peux vous dire que là-bas, on a soif de l'Évangile. Tous les dimanches, quand on prêche l'Évangile, il y a des hommes et des femmes qui se convertissent. Tous les dimanches, on fait l'appel pour le salut. L'appel pour le salut. Et il y en a qui se lèvent. On demande aux gens de se lever, se mettre debout là où ils sont. Ils se lèvent pour recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur. On les enseigne sur tous les principes de la vie chrétienne, avec toutes les spécificités de leur culture. Hein, polygamie, fétichisme, sorcellerie, n'est-ce pas? Parce que je peux vous assurer, au point de vue occulte, tout se fait là-bas. Tout se fait. Je sais que mon temps est passé. Je devrais m'arrêter, mais je pourrais encore continuer une heure. Je n'ai même pas parlé beaucoup sur ces passages que j'ai lus. Pour s'attacher seulement à cette parole, mène en plein eau. Mène en plein eau et jette ton filet pour la pêche. Je crois qu'ici en France, nous avons besoin de nous réveiller, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Il revient bientôt. Ça va mal dans le monde. L'économie est en train de crouler. Des grandes nations comme l'Amérique est en train de plonger. L'Europe s'enorgueillit pour son pouvoir, oui, mais l'Antéchrist va se manifester dans cette Europe. Frères et sœurs, soyez vigilants. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il est à la porte et il a besoin de témoins, de chacun d'entre nous, afin d'être des témoins dans ces temps de la fin. Des témoins dans notre comportement, dans notre langage, dans notre façon de vivre, différents du monde. Nous ne pouvons pas être comme eux. Différents du monde. Peut-être qu'ils vont nous rejeter parce que nous sommes trop différents. Le monde n'aime pas celui qui est différent de ce qu'il est, lui. Il voudrait enfermer tout le monde dans le même sac. Mais nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Et en tant que citoyens du royaume des cieux, il y a un comportement différent à avoir. J'ai essayé de partager un peu avec vous, un peu seulement. Frères et sœurs, le temps est court. Dimanche prochain, nous sommes au Congo. Nous quittons le 14. Priez pour nous. Pour nous, il n'y a pas de retraite. J'ai 77 ans, ma femme est un peu plus âgée, un petit peu plus. Le Seigneur nous donne la force. Ma femme est en charge de toutes nos œuvres sociales. Et puis, je prêche toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et puis, on a plein de projets, plein. Nous prions le Seigneur pour un bateau, pour remonter le fleuve et ses affluents, avec une cellule médicale et puis un poste d'évangélisation sur ce bateau. Mais il nous faut plus $1,5 million pour ce bateau, avec deux gros moteurs diesel. Il y a une misère le long de ce fleuve, c'est incroyable. Une misère. Plus de commerce, plus rien. Vous allez dans les villages, les gens n'ont plus rien à porter, comme vêtements, que des vêtements déchirés. Voilà. Pas de soins médicaux. Personne ne leur prêche l'évangile. Pas de sécurité. C'est vrai. C'est vrai. Pas de soins médicaux. S'il vous plaît, et vous, mes frères africains qui êtes ici, pensez à votre pays. N'oubliez pas votre pays. Amen. N'oubliez pas votre pays et votre peuple qui souffre. Peut-être que le Seigneur veut que vous retourniez pour apporter cet évangile là-bas et que cet évangile sera peut-être mieux reçu qu'il n'est ici en Europe. Est-ce la volonté de Dieu que vous continuez à vivre ici? Peu importe. Ce qui importe, c'est que Dieu, que Jésus soit dans votre bateau. Souvenez-vous de cela. Et il nous appelle chacun d'entre nous à être actif dans ces temps de la fin. Baissons la tête, s'il vous plaît. Seigneur, nous sommes devant toi à cette heure. J'ai essayé, Seigneur, d'exprimer quelque peu ce qu'il y a dans mon cœur, de façon décousue. Peu importe, Seigneur. Tout ce que j'ai dit, Seigneur, c'est ce que toi, tu as fait. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous n'avons été que des instruments et des esclaves. Des esclaves, des outils dans ta main. Rien de plus, Seigneur. N'est-ce pas un honneur de pouvoir travailler avec toi? C'est toi qui as fait tout cela, Seigneur, à travers des outils bien incapables. Mais Seigneur, ô Jésus, tu as permis que nous parlions quelque peu ici, dans cette église. Tu as permis que nous rendions quelques témoignages pour dire à nos frères, Seigneur, qui sont ici, qu'il y a autre chose là-bas, de l'autre côté du monde. Des larmes, des souffrances, des peines, des maladies. Et au milieu de cette peine, de cette souffrance, des milliers d'hommes et de femmes, si l'Évangile leur est prêché, ils croiront et ils viendront à toi. Ô Jésus, veuille nous utiliser dans ces temps de la fin, où que ce soit ici en France, ou que ce soit en Afrique, ou que ce soit ailleurs dans le monde. Seigneur, aide-nous à comprendre ta volonté, à marcher avec toi. Et si nous obéissons, Seigneur, à ton appel, tu seras avec nous dans notre barque. Ô Jésus, dans ces temps de la fin, nous avons besoin d'une force particulière une force que toi seul tu peux communiquer. Nous avons besoin, Seigneur, de tout ce que tu as promis à tes disciples pour vaincre dans ce combat. Utilise-nous, Seigneur, s'il te plaît, dans ces temps de la fin. Chacun d'entre nous, fais ce que tu veux avec nous. Aide-nous à comprendre ta volonté et à obéir. Bénis ces jeunes gens, ces jeunes filles qui sont dans cette église. Embrase leur cœur, leur âme. Aide-les, Seigneur, à comprendre ta volonté pour leur vie et à ne pas perdre du temps à des choses vaines, mais à se concentrer sur les priorités du royaume des cieux. Ô Jésus, 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 nous sommes devant toi, Seigneur. S'il te plaît, utilise-nous. Je vous ai parlé, mes frères et mes sœurs, mais je voudrais terminer en lançant cet appel. Ceux qui veulent véritablement se donner au Seigneur dans le sens de se donner pour le service, quel que soit ce service. Ceux qui veulent prendre cet engagement aujourd'hui devant lui, de le servir, où qu'il puisse vous envoyer, vous ne savez pas où encore, mais vous désirez être utilisé par le Seigneur pour le salut des autres, qu'ils se lèvent là où ils sont. Comme un engagement personnel, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, utilise-moi. Qu'ils se lèvent, simplement. Ô Jésus, ô Jésus. Et que ce soit un engagement entre vous et le Seigneur. Non pas devant un homme, non pas pour un homme, non pas pour une association religieuse ou une religion ou une organisation, non. Mais devant celui qui seul peut rendre capable et équiper celui qui désire être équipé pour le service. Ô Jésus, Seigneur, je veux te servir. C'est ce que vous dites vous-même en vous levant. Je veux te servir de la façon dont tu voudras, non dans celle que je voudrais moi. Je me donne à toi, Seigneur, pour te servir. Je me livre à toi pour faire ce que tu désires faire de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je prends cet engagement, Seigneur, devant toi à cette heure. Ma vie est trop courte pour la gaspiller. Ma vie est trop courte. Elle est valeur. Elle est valeur que tu m'appelles à défendre. Seigneur, sont seules celles qui me feront parvenir dans l'éternité. Je m'engage, Seigneur, aujourd'hui, à cette heure, à te servir et à faire ce que toi tu voudras de ma vie. Ma vie ne m'appartient pas. Mais ma vie t'appartient. Tu as donné ta vie à toi pour me sauver. Tu as tous les droits sur moi. Je n'ai pas de droit de décider pour moi-même. Je te demande, Seigneur, ô mon Dieu, que tu me montres le chemin que je dois suivre. Mais je veux t'obéir. Si je t'obéis, Seigneur, tu seras dans ma barque. Et tu m'aideras à jeter le filet pour la pêche et à ramasser une quantité de poissons. Donne-nous, Seigneur, d'être des ouvriers qui rapporteront pour le royaume des cieux. Bénis cette assemblée, je t'en prie, ô Dieu. Bénis chaque individu dans cette assemblée. Bénis le pasteur, bénis chacun de ceux qui œuvrent dans ce lieu. Et dans cet endroit de la France, aide-les à grandir de plus en plus. Amen. Ô mon Dieu, non pas seulement en nombre, mais en qualité. Amen. En qualité, en force et en puissance. Donne-leur, ô Dieu, d'être des conquérants. Amen. Ô Dieu, nous ne sommes pas un club, mais nous sommes une armée. Amen. Et que chacun comprenne ce principe, ô Dieu, soumis à la discipline de l'armée du roi des rois. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. que ta grâce repose sur chaque individu dans cette salle. Maintenant, au nom de Jésus.